franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre. Et bonjour à tous. Depuis longtemps, il est admis qu'on n'utilise plus le mot nain. On parle de personnes de petite taille. Difficile également de qualifier les gens de gros. On parle de personnes souffrant de surcharge pondérale. Les aveugles sont devenus des non-voyants et les sourds des non-entendants. Les handicapés ne sont plus des handicapés, mais des personnes à mobilité réduite. Et ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Les femmes de ménage se sont transformées en techniciennes de surface. Les prostituées en travailleuses du sexe. Et l'on ne dit plus des femmes qu'elles sont ménopausées, non. On dit qu'elles présentent des carences en hormones. On n'en finirait pas d'égrener ces périphrases, tant les exemples sont nombreux, les vieux sont des seniors et les clochards des SDF. Quant aux satanés pesticides, ceux qui en font la promotion les appellent désormais des produits phytosanitaires pour la protection des plantes. Mais que nous arrive-t-il ? Se demande Isabelle Gravillon dans le bimestriel Femmes majuscules. Pourquoi cette difficulté contemporaine à nommer les choses, à appeler un chat un chat ? Le philosophe Michel Lacroix propose son analyse. Pour lui, cette tendance à l'euphémisation date des années 70, lorsque s'est développée la prise de conscience de l'impact psychologique des mots sur autrui. À partir de là, dit-il, le langage s'est en quelque sorte adouci avec la volonté de ne surtout pas blesser. Mais dans certains domaines, ces formules visent délibérément à tromper leur destinataire, en premier lieu dans le milieu de l'entreprise. C'est ainsi que les licenciements sont devenus des plans sociaux ou plans de sauvegarde de l'emploi. Et c'est ainsi aussi que les délocalisations sont devenues des changements de cartographie de production. Des métaphores embellissantes qui relèvent de la mauvaise foi, voire de l'escroquerie, commente le philosophe, ajoutant que cette langue de bois correspond à une évolution culturelle de notre société qui refuse tout ce qui dérange. Ce n'est donc pas seulement au nom des bons sentiments qu'on utilise des termes édulcorants les situations, c'est aussi pour duper, pour endormir ceux auxquels on s'adresse, mais mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, ainsi que l'écrivait Albert Camus. D'ailleurs, cet écran de fumée lexicale n'est pas sans conséquence, si l'on en croit l'historien Christian Delporte, notamment en politique, un langage politique sans le moindre relief est un langage où l'on cherche à rester consensuel à tout prix, mais ce langage risque de pousser les gens dans les bras des populistes qui, eux, revendiquent d'employer le parler vrai. Et c'est notamment ce que revendique Donald Trump.
Le candidat à la primaire des Républicains américains, dont le dernier meeting a donc dû être annulé.
Annulé à la dernière minute. Trop de tensions et trop de manifestants à l'intérieur du bâtiment où devait avoir lieu la réunion publique. Des manifestants venus dénoncer le racisme du blond milliardaire, lequel a estimé que sa liberté d'expression avait été violée, prière de ne pas rigoler. Le récit de la soirée est à lire sur les différents sites d'information. À l'annonce de l'annulation, des échauffourées ont éclaté aux abords de la salle, mais Donald Trump a déclaré que c'était uniquement à cause des manifestants très violents. Rappelons tout de même que le 1er février, le même Donald Trump avait enjoint ses partisans à cogner sur les militants de ses adversaires, leur promettant même de payer leurs frais d'avocat. Et dans la politique française, où en est-on du parler vrai ? En tout cas concernant la réforme du Code du travail, dont vous venez de parler longuement avec votre invité, le Figaro n'hésite pas à parler d'un dialogue de sourds entre Manuel Valls et les syndicats étudiants. Le journal aurait pu titrer un dialogue de malentendants, mais non. Dialogue de sourds donc, et pour Daniel Muraz, qui signe l'édito du courrier Picard, cette opération déminage n'a convaincu personne. Après le coup de menton, la séduction n'a pas l'air de fonctionner, et à défaut d'évolution significative, écrit-il, le gouvernement pourrait bien recréer une unité à gauche, mais une unité contre lui et contre un projet de loi déséquilibré et bâclé. L'unité de la gauche contre le texte, mais chez les patrons également, le projet fait des remous, comme le révèle le quotidien Les Échos sur son site internet. Prise de bec entre le patronat et la Confédération des cadres sur la loi, sur le travail. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, aurait menacé la présidente de la Confédération des cadres, la CFE-CGC. Il l'aurait menacé de ne plus la soutenir si elle ne cessait pas ses critiques contre la loi sur le travail. Selon les Échos, Pierre Gattaz aurait adressé 2 SMS à Carole Couvert, la présidente de la CFE-CGC. Premier SMS, mercredi dernier. L'attitude de la CGC est incompréhensible et nuisible. Vous avez déjà planté la loi sur la modernisation du dialogue social, vous n'allez pas nous planter la loi Myriam El Khomri. Écrit Monsieur Gattaz dans ce premier des 2 messages qui ont été transmis aux Échos. Second SMS, plus précis, si vous persistez dans cette attitude cégétiste sur cette loi, le MEDEF en tirera toutes les conséquences sur nos discussions en cours. Ce que je veux dire, écrit-il, c'est que nous ne vous soutiendrons plus dans votre combat pour les cadres si vous plantez cette loi. Commentaire de l'entourage de Pierre Gattaz. Il convient que les discussions entre le MEDEF et les syndicats de cadres, notamment sur la réforme du Code du Travail, sont franches. Négociations franches et des discussions qui, dit-il, sont parfois un petit peu sèches. Un petit peu sèches, oui. C'est un euphémisme. Zioté, à ce propos, le dessin de Lefred Touron dans Le Canard Enchaîné. Valls négocie avec tout le monde. Ça, c'est le titre et le dessin représente le chef du gouvernement lançant à la ministre du Travail. C'est plus facile de discuter avec les syndicats qu'avec Hollande, eux, au moins. Ils savent ce qu'ils veulent. Et puis, à propos de travail, lire cette prédiction dans les colonnes de Paris Match. Les robots vont mettre au chômage la moitié de la population mondiale. C'est en tout cas ce que prévoit un rapport publié par l'université d'Oxford. Rapport qui a déjà suscité de nombreux articles il y a quelques mois. Et parmi les métiers où la présence humaine ne sera bientôt plus nécessaire, on trouve notamment celui de comptable. Dans les 20 ans qui viennent, 99% des comptables pourraient perdre leur job au profit des robots. Après, les ouvriers, les cols bleus, comme on dit, même les cols blancs sont ainsi victimes de l'automatisation des tâches. DRH, assureurs, avocats et même les traders s'affolent. Dorénavant, plus des 2/3 des transactions financières se font non par des hommes, mais par des algorithmes. Du reste, les professeurs ont de quoi s'inquiéter aussi. Dans certaines facultés de plus en plus nombreuses, une partie des cours se fait exclusivement en ligne. Les robots sont partout et ils pourraient donc rapidement mettre des millions de travailleurs au chômage technologique. Qui sait, dans les années qui viennent, ce sera peut-être un robot qui présentera la matinale du week-end sur France Inter. Un robot pour remplacer animateurs et journalistes. Enfin, je veux dire les travailleurs de la radio.
Vous faites souffrir Pierre Veil. Vous avez par ailleurs, Frédéric, relevé 3 autres... Qu'est-ce que vous avez...
Trois titres dans les colonnes du Parisien. 870 millions de dollars. 870 millions de dollars, c'est ce qu'avait prévu de détourner des hackers à la Banque du Bangladesh. S'ils avaient réussi, ça aurait franchement été le cybercas du siècle. Mais ce grand braquage 100% numérique a finalement échoué de peu. Et les hackers n'ont détourné que 81 millions de dollars. Et s'ils ont échoué à en détourner davantage, c'est à cause d'une faute d'orthographe. Sur une demande de virement, ces pirates de l'informatique ont écrit Foundation au lieu de Foundation. Un A au lieu d'un O qui a alerté les autorités bangladaises. Mais bon, 81 millions de dollars, c'est déjà une très jolie somme. Un millier d'églises françaises, c'est le second chiffre. Le deuxième chiffre, un millier d'églises françaises seront bientôt mises en vente. C'est en tout cas l'estimation d'un agent immobilier spécialisé dans les biens historiques. Par manque de fidèles, mais aussi par manque de prêtres pour célébrer les messes, de plus en plus d'églises sont transformées en bâtiments publics, en 4 étoiles ou chambres d'hôtes, mais également en discothèques. En Espagne, un pays pourtant très catholique, une église des Asturies a même été tout récemment transformée en piste de skate, une piste immense dans la nef, à la place des bancs des fidèles. Troisième chiffre, et celui-ci concerne la médecine. Savez-vous quelle est la moyenne du temps que laissent les docteurs à leurs patients pour expliquer la raison de leur visite? J'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai du mal à dormir.
Quand Pierre Veil va chez le médecin, ça prend 1h30.
Mais... Eh bien, la moyenne du temps de parole en début de consultation, elle est de 23 secondes, nous apprend le Parisien ce matin. 23 secondes pour détailler et décrire les symptômes. 23 secondes, ce n'est pas beaucoup et c'est un euphémisme. Et puis pour finir cette histoire insolite à l'aune de Midi Libre, La Poste a franchi le maréchal Pétain. Une Montpelliéraine a eu la surprise de recevoir un colis à l'effigie du militaire, de vieux timbres avec sa tête, des timbres pourtant interdits depuis la libération et la condamnation du chef du régime de Vichy, mais les services postaux n'y ont, semble-t-il, rien vu de mal. Et si l'on nous explique que c'est une fâcheuse maladresse, on sera en droit de penser qu'il s'agit là d'un euphémisme.